Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi, un dimanche exceptionnel. Je pèse mes mots aujourd'hui avec le début de Roland-Garros, la finale de l'Euroleague Monaco-Fenerbahçe, le Grand Prix de Monaco, tous ces événements évidemment à suivre sur RMC, vous ne raterez rien. Au sommaire aujourd'hui, le triomphe en France est total pour le PSG, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, beaucoup trop fort, les Parisiens ont été irrésistibles. La suprématie du PSG est-elle fascinante ou un peu déprimante? C'est la une des GG dans quelques instants. 10h, le bras de fer avec ce nouveau duel du tennis mondial pour ce Roland-Garros 2025, Sinner-Alcaraz. Cette nouvelle rivalité vous fait-elle rêver? Et puis 11h, évidemment, l'UBB sur le toit de l'Europe, l'Union Bordeaux-Bègles a remporté hier le premier trophée de son histoire. Les Bordelais sont-ils désormais favoris du top 14? On va reparler du Stade Toulousain, c'est pas impossible dans cette émission. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Évidemment, nous allons parler de Teddy Riner qui pourrait se lancer en politique. Alors voici ma présentation, une grande gueule qui, comme Teddy Riner, lui aussi, pense déjà à sa reconversion. La sienne, c'est la retraite. Quelle belle reconversion. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Salut, ça va? Oui. Je ne pense pas du tout à me reconvertir, à la différence d'autres, si tu veux.
Ah oui?
Oui, oui. Ouais,
parce qu'on va accueillir... Ah, non, c'est pas bien.
C'est pas bien. À Jérôme Pinault,
oui,
évidemment.
Oui.
Il y a déjà lui. Une retraite.
Lui,
je pense à Sarah Pitkowski.
Ma vie est faite de reconversion.
Sarah, elle a fait deux ou trois retraites déjà différentes depuis qu'elle a...
Non, je voudrais quand même qu'on éclaircisse ce point, Christophe, une bonne fois pour toutes. Est-ce que... Enfin, c'est quand la retraite?
Je sais pas. J'ai pas voulu regarder. Je ne regarde pas. Je fais de la phobie administrative. J'ai mis la tête sous la terre. Et je vais peut-être demander des conseils à mon copain.
Ouais, on va l'accueillir dans quelques instants. Je pense que tu parles de Jeannot Rességuier. Une grande gueule qui, comme Teddy Riner, il adore les politiques. C'est Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut à tous.
T'es copain, toi?
Moi, j'ai beaucoup.
Ouais.
Depuis 3 ans encore.
Ouais,
plus.
Ouais. Tu t'es fait beaucoup
surtout
d'amis.
Surtout à la mairie de Paris.
Bravo, mon cher Jérôme. Ça
non,
va.
Pas qu'à la mairie de Paris, parce que c'est tous les mêmes à peu près. Mais à la mairie de Paris, ouais, ouais. Là, je suis fan, absolu.
Ça va, t'es prêt pour ce dimanche?
Surtout fan des gens qui ont fait du sport et qui viennent en politique.
Ça, ouais. Ouais. Alors là, le problème, c'est que maintenant que tu es lancé là-dessus, tu peux plus s'arrêter. Je te pose d'autres questions depuis tout à l'heure. Tout va bien? T'es
tout
content?
Tout va très bien. Écoute, tout va très bien. Journée de sport, tout va bien pour moi.
Ouais, c'est bientôt le Tour de France. Tu vas être avec Christophe.
Exactement.
Tu te prépares un mois avec Christophe.
Je suis en pleine préparation.
Ouais, ouais.
Ça se voit pas?
Si, ça se voit. Ça se voit. Une grande belle qui, comme Teddy Riner, bon, c'est la classique, n'a jamais remporté Roland Garros. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour à tous. Ben oui, parce que tu sais quoi, si je l'avais gagné, je serais pas avec vous tous les dimanches matin.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah non,
Sarah,
je serais sur une île déserte, en train de me la couler douce, tu vois.
C'est vrai?
Surtout ces dernières années, le prize money a tellement grimpé.
Ouais, c'est comme ça que tu vois ton métier, donc désormais.
Non, je prends un plaisir à être avec vous.
Alors tu sais quoi, je suis très heureux que tu n'aies pas remporté Roland Garros.
C'est très gentil.
Je suis très heureux que tu sois avec nous.
Elle nous coûterait trop cher à ce moment-là.
Oui, c'est vrai,
t'as raison.
Et puis une grande gueule qui, comme Teddy Riner, imaginez s'il devient ministre des Sports. Oh la cata. David Douillet, salut David.
Ça va?
Ça va, mon David?
C'était drôle pour une fois. Je te jure, c'est sympa.
Une fois. J'adore tes encouragements, mon cher David.
Ça fait quand même 5 ans, il arrive à en faire une de drôle de temps en temps.
Mais c'est bien. Ouais, net progrès.
Alors profitez, il y a quelques fulgurances, mais c'est rare. Hein. Bon, David, on est très heureux de t'avoir avec nous. J'imagine que t'as bien bûché parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Hein.
Ouais, ça va, mais c'est pas des sujets compliqués.
Non.
C'est des sujets passionnants.
Mais on va aussi parler de Teddy Riner, évidemment, qui pourrait, je le disais, se lancer en politique. Et lui, il voit grand, hein, pourquoi pas directement la présidentielle, président de la République. Bref, ce sera à 10h30. Alors, un événement dans cette émission également aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. RMC vous offre une chance unique de vivre la finale de la Ligue des Champions samedi prochain. Vous pouvez vivre l'expérience RMC, le vol aller-retour Paris-Munich, l'hôtel avec le petit déjeuner et évidemment vos deux places pour assister à cette rencontre PSG Inter Milan. Le match événement de l'année, ça se passe sur RMC. C'est cette expérience que l'on vous propose dès que vous entendrez ceci dans cette émission. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Attention, l'alerte va tomber plusieurs fois pour remporter vos places pour la finale de Ligue des Champions qui se gagne uniquement sur RMC. Bonne chance à tous. On va débuter cette émission avec cette citation de Nietzsche. Voilà, je voulais débuter évidemment
En toute simplicité.
Oui, bah, j'ai lu tous ses ouvrages, hein, évidemment. J'ai tous ses disques en plus. Voici ce qu'il disait. On veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance, mais si on a la puissance, on veut la suprématie.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue.
La contre-attaque des Parisiens avec le ballon récupéré. Doué, Barcola, la frappe et le but. La voilà l'ouverture du score du Paris Saint-Germain.
Il était né pour tenir ce rôle, pour être celui qui allait régner 72 ans sur la France, plus longtemps que tout autre roi de l'histoire.
Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent.
Allez, on va prendre le deuxième but. Avec encore Doué Barcola.
Oh là 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 là.
Tout au long de son règne, il jouit d'un pouvoir et de privilèges sans précédent.
Les rois du monde se battent entre eux.
Elle a voulu. On ravisse au tout dernier moment. Quand le ballon retombe, elle est signée. Achraf Hakimi. Victoire du Paris Saint-Germain. 16e Coupe de France de son histoire. Avec des Parisiens qui ont fait le job dans la perspective de leur finale à jouer samedi prochain. À Munich en Ligue des Champions face à l'Inter Milan.
Un bon dimanche débuté en chanson, on aime ça. Les rois du monde, pour l'instant les rois de France, hein. Le PSG cette saison, c'est l'histoire de Gargantua, de François Rabelais, un ogre jamais rassasié. Le PSG cette saison, c'est l'histoire d'une domination sans partage. Les Parisiens ont englouti les trois titres nationaux, le trophée des champions, la Ligue 1 avec 19 points d'avance, et hier la Coupe de France dans un match, vous le savez, à sens unique face à Reims. Aucun suspense, aucune vibration, comme disent les jeunes, aucun petit papillon dans le ventre, mais une machine froide, imbattable et inarrêtable. La musique qui fout les jetons. Et cette question. La suprématie du PSG est-elle fascinante ou déprimante? Christophe Cessieux.
Déprimante.
Jérôme Pinault.
Eh ben, je suis allé sur le plutôt fascinant.
Sarah Pitkowski.
Moi aussi, j'ai retenu plutôt le côté fascinant.
David Douillet.
Au national, déprimante, et puis à l'international, fascinant.
Ok, il y a un peu de tout, les amis. On va débattre dans quelques instants. On va accueillir la voix du foot sur RMC, Jeannot Rességuier, qui a déjà été quelque part accueilli dans cette émission.
Ouais, un peu plus tôt.
Ça va, Jeannot?
J'expliquerai pour les trimestres, hein, parce que moi, il m'en manque encore, hein, je te rassure. Donc, mais je te raconterai comment ça se passe.
Ok. Ouais, c'est sympa. On fera une émission spéciale trimestre.
Ouais, hein, plus de précision sur les dates, comme ça.
Alors, tu étais hier au Stade de France, évidemment, Jeannot, les Parisiens, est-ce qu'ils ont fêté ce nouveau titre ou est-ce qu'ils sont déjà focus là, sur la finale de la Ligue des Champions?
Alors, de défiler sur les Champs-Élysées aujourd'hui, on va attendre la semaine prochaine. Bon, ouais, plus sérieusement, les joueurs ont pris le temps de fêter cette victoire dès le coup de sifflet final en allant chanter et danser devant le virage de leurs supporters avant d'y revenir avec la médaille autour du cou et surtout la coupe présentée par Marquinhos et ses partenaires à tour de rôle. Apprécier l'instant présent, c'est ce que dit ou laisse entendre Lucas Hernandez.
Bien sûr, il faut fêter, il faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'on gagne des titres. Ce soir, on a fait un travail exceptionnel. Voilà, on a le temps de fêter ça ce soir. Demain, on a un petit peu de repos quand même. Et après, on va commencer la semaine. On a le temps de bien se préparer pour le match de samedi.
Déjà tourné vers l'autre finale, celle que tout un club attend, celle pour laquelle Luis Enrique a préparé son groupe depuis des mois et des mois. Repos ce dimanche, demain reprise mardi avec Kvaratskhelia, une migraine après l'échauffement qui l'a empêché de débuter la rencontre. Le coach parisien tout sourire hier soir sous les papelitos bleus et rouges sur la pelouse, mais qui était déjà passé à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, devant les journalistes.
Tout ce que nous avons fait nous prépare pour le match que nous attendons tous. Un match qui sera déterminant et qui peut nous permettre de marquer l'histoire. Il n'y a pas de piège. Nous préparons le match depuis le 15 juillet dernier. C'est dans la tête de tout le monde au Paris Saint-Germain, les joueurs et les fans du monde entier. C'est un match qu'on veut jouer en gérant l'émotion. Je pense que nous arriverons avec beaucoup de confiance et d'envie.
Vous l'aurez compris, le PSG est prêt pour le plus grand défi de son histoire, si l'on en croit Luis Enrique que l'on vient d'entendre, mais nous ne sommes que le 25 mai, il reste encore 6 jours, alors attention à la gestion du temps d'avant.
Merci beaucoup, j'adorais Séguier. Tu restes avec nous pour ce débat. La suprématie du PSG est-elle fascinante ou déprimante? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai deux plutôt déprimés et deux plutôt fascinés. On va commencer avec un déprimé, Christophe Cessieux.
Ça m'énerve de commencer le dimanche matin comme ça, déprimé et tout. Ça va être très long, hein, cette journée. Heureusement qu'il y a d'autres moments qui vont m'apporter un peu de félicité. Non, un peu déprimé. Alors, c'est un peu comme David. C'est-à-dire que je suis déprimé par leur domination au niveau territorial, au niveau domestique. Parce que là, il y a pas photo. Et en même temps, fasciné par ce qui se passe à l'étranger depuis le début de la saison. Ce qui fait la beauté de la Ligue des Champions, c'est ça. C'est que pour le moment, ils gagnent, mais à chaque fois, il se passe quelque chose. Il y a une émotion. On se ronge les sangs devant la télé. On doute. Et puis il y a des actions exceptionnelles, des buts magnifiques. Et là, quand tu assistes à ce genre de match, évidemment, tu ne peux être que fasciné et tu te demandes jusqu'où ça va aller. Mais c'est ça le sport. Il faut qu'il y ait une certaine incertitude. S'il y a aucune incertitude, eh ben à 2-0 hier soir, j'ai coupé la radio, mon Jeannot. Ben oui, bon. Je t'ai coupé le sifflet à la 19e minute et j'ai regardé une série parce que il y avait OK, mais bon, c'est fait, c'est
gagné. Là, t'es déjà déprimé alors par contre parce que pour attaquer une série derrière.
Non, mais elle était bien ma série.
Ah bon.
Ouais, super. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est les dominations outrancières dans n'importe quel sport me dépriment. Schumacher et Ferrari pendant un temps, comme l'a fait Eddy Merckx, par exemple. Pogacar aujourd'hui est en train un peu de faire la même chose. Lance Armstrong, 7 Tours de France d'affilée. Tu savais que de toute manière, il se mettait au départ du tour. Eh ben, il allait gagner le tour. Et même avec
Jérôme
Pinot, ouais, qui essayait de lui gratter.
On avait dit pas de gros mots, non, ce matin.
Et voilà. Mais peut-être à la différence d'un Pogacar, lui, il domine aussi de manière outrageuse son sport en ce moment, mais il trouve toujours un copain quand même pour faire la bagarre avec lui, et ça c'est bien. Et le problème, c'est qu'en France, il y a personne pour faire la bagarre avec le PSG. Voilà. Donc voilà.
Et ça te déprime un peu.
J'aimerais bien qu'il trouve un petit copain.
Ok, garde quelques billes. Il est fasciné, là, Sarah Pitkowski.
Pourquoi je suis pas allée sur le côté fascinant, c'est que on a quand même assisté en l'espace de, allez, on va dire depuis le mois de novembre dernier, à la naissance d'un système de jeu qu'on avait. C'est pas qu'on n'avait pas vu venir, mais en tout cas, on nous le promettait et on voyait jamais rien. Et là, aujourd'hui, je défie qui que ce soit de trouver quelqu'un, un détracteur du jeu proposé par le PSG, que tu sois supporter ou pas. Aujourd'hui, quand tu regardes le PSG jouer, finalement, peu importe l'adversaire qui est en face, mais moi qui suis pas une fine technicienne du foot, je prends du plaisir à le voir jouer. C'est-à-dire que sur le fond, ce PSG là propose un jeu qui est super intéressant.
Donc en fait ça se suffit tout seul, c'est ce que tu veux nous dire?
Un petit peu quand même, et parce que on a vu quand même des joueurs, il a quand même révélé des individualités dans un collectif. Pardon, un Dembélé, il s'est quand même révélé. Donnarumma, on lui tombait dessus tous les 15 matins. Il a fait une campagne de Ligue des Champions extraordinaire. Et peut-être le joueur dont j'ai le plus envie de parler, c'est Hakimi. Hakimi qui a, et il le dit lui-même, il dit, Luis Enrique m'a montré d'autres manières de jouer sur mon côté droit. Et finalement, on trouve un joueur différent qui est capable de marquer des buts. Et encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais je prends du plaisir à regarder certains joueurs parce que je les vois évoluer. Et c'est kiffant, quoi. Alors, effectivement, hier, je suis un peu comme vous, au bout d'un zéro, on savait, mais au bout de 15 minutes, les joueurs de Reims, ils tiraient la langue. Il n'y a pas le même niveau physique.
Hier, il faut quand même signaler hier, et même si on ne le souhaite pas au Rémois, c'est un potentiel champion d'Europe face à un club de Ligue 2. Déjà, au départ, l'affiche, elle est totalement
mais oui, c'est vrai.
Oui, mais tu vois, Christophe, hier, si c'est Marseille, Monaco,
un potentiel membre de Ligue 2 qui a l'épée de Damoclès
qui a la tête
de
à l'envers, bien
et
sûr,
qui a son match dans la tête.
Mais bien sûr, on a deux équipes qui jouent deux objectifs différents en une semaine.
La deuxième mi-temps était clairement la prépa de dimanche.
Vous apportez un chiffre, il y a les audiences qui viennent de tomber concernant le match d'hier soir. Il a été suivi par 2 900 000 Français.
C'est pas beaucoup,
terrible par rapport à l'année d'avant où il y avait eu 4 460 000.
Ouais, attendons samedi soir prochain, ça va pas être la même.
C'est une grosse semaine quand même.
Pour une finale de Coupe de France, oui. Mais vous l'avez dit et on l'a parlé hier. C'est une affiche complètement déséquilibrée avec le fait que, et tu en parlais à l'instant, Jérôme, la gestion de la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, elle montrait déjà que oui. Bon, ça va, on avait géré 3-0. 3-0 et on pense à samedi prochain. Oui.
David Douillet, après je reviens Jérôme. David Douillet, pourquoi déprimé ?
Oh bah, cette citation à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est l'histoire du PSG, mais pas d'aujourd'hui, hein, voilà. Depuis 2011, depuis qu'ils ont été rachetés par le Qatar, par QSI, ils ont gagné plus de 10 titres de champion de France, ils ont tout gagné, la Coupe de France, là ils ont fait le triplé, le titre en Ligue 1, la Coupe de France, trophée champion. Bon voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que là enfin on a un club français qui est capable de gagner la Ligue des Champions et c'est ça qui est excitant. Mais pour le reste et alors est-ce que
c'est pas la faute du PSG, voilà, on est bien d'accord.
Non mais bien sûr évidemment.
C'est l'opposition qui est pas à la hauteur.
Absolument. Et justement je voulais y venir, Sarah. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si un club français a les moyens d'aller gagner une finale de Champions League, il y a un tel décalage avec le reste du niveau de la Ligue 1 que voilà, c'est pas, je trouve que c'est pas normal. Je trouve que des grands clubs comme Lyon, comme Marseille, Lille peut-être devraient les talonner. Si on devait avoir dans le futur, si on doit avoir dans le futur d'autres clubs ou en tout cas une émulation de clubs qui permettent à ce que même le PSG puisse se maintenir au plus haut niveau, parce que l'émulation c'est ça, le profit de l'émulation c'est quand des clubs viennent te taquiner, te mordre les fesses en permanence et te fait aller dans tes retranchements les plus profonds. Or, au national, ça n'existe pas pour le PSG. Donc là, c'est bien, ils sont en finale. Pour le futur, ce sera peut-être pas évident d'avoir cette émulation. Et ils l'ont pas en France. C'est ça qui est déprimant, c'est que voilà, il y a eux et le reste du monde. Mais dans tous les domaines, on pourrait même parler du budget. Je le cite souvent, mais voilà.
Mais ça fait pas tout. Le budget fait pas tout. Je suis désolé.
Bien sûr, mais en tout cas,
il y a des clubs qui ont peut-être moins de moyens. Mais l'utilisation du budget, c'est pour ça que moi j'ai dit fascinant. Fascinant pourquoi ? Pour moi, parce que l'utilisation de leur budget et la façon dont travaille le PSG sous Luis Enrique me séduit beaucoup plus qu'avant. C'est fini, on va chercher les Messi, les Beckham, les Ibrahimovic. Tu prends hier sur le terrain un club qui a un peu armé, qui a un peu de finance, mais qui a surtout une cellule de recrutement digne de ce nom, de Dembélé, Doué, Barcola, que je sache, c'est la formation française, c'est même la formation rennaise pour deux d'entre eux. Quand ils étaient gamins, ces mecs-là, il fallait les prendre à ce moment-là. Il y avait d'autres clubs qui auraient pu les prendre. Ce qui me plaît, moi, c'est qu'on a aligné hier, quand même, depuis un moment, on aligne une équipe où il y a quelque chose de différent par rapport à avant. Ça joue ensemble. Et ce n'est pas un amassis de stars qui joue au ballon et qui accélère que quand il a envie.
Ça c'est la méthode.
Moi, c'est un bon d'accord avec toi.
Et ça fait plaisir. D'accord. Après, en face, d'accord. OK, il y a quelques clubs. Évidemment que si on met Nantes-Nice pour nous rappeler la finale d'il y a quelques années, ou
ça
Toulouse.
Va.
Non, mais il y a de l'audience parce qu'il y a pas Paris et il y a du suspense Toulouse, au départ. Non, moi, je pense que l'audience, ça ne reflète pas le fait que le Paris Saint-Germain, certes, domine en France, mais intéresse. Je suis sûr que le score côté marseillais le week-end prochain sera très élevé parce que malgré tout, cette équipe a beau être une équipe parisienne, elle séduit la France.
Mais tous
séduit
avec le maillot de l'Inter. Quand même.
Alors il y a beaucoup de maillots de l'Inter devant nous. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je dis que c'est fascinant, c'est qu'on a fait une équipe au-dessus du lot avec malgré tout beaucoup de joueurs issus de la formation française ou étrangère.
Oui, enfin, Pacho. Issus de la formation française, mais pas rachetés directement. Je veux dire, ils ont quand même
non,
fait
mais Désiré
des
Doué,
tours.
Il n'y a pas longtemps à Rennes.
Tours dans d'autres,
il y a d'autres clubs comme l'Olympique de Marseille.
Tu c'est le cas de Dembélé. Barcola et Doué, non, ouais, c'est, ouais, c'est Lyon et c'est Rennes.
Non, mais Dembélé, quand il part de Rennes, il va à Dortmund. À l'époque, le Paris Saint-Germain avait des moyens.
Ouais, mais c'est pas le même Dembélé qu'aujourd'hui. Hein. Il part à Dortmund, il s'en va à Barcelone. Après, rappelez-vous ces saisons barcelonaises.
Pacho, Neves, Vitinha, ouais, tous ces gens, il faut avoir le nez pour aller les chercher.
Oui, ça,
il suffit
sûr
pas que d'avoir de l'oseille.
Ouais. Pour ceux qui l'ont prolongé.
Voilà, le duo Campos Enrique,
ils se sont trouvés,
offre quelque chose de différent qui moi me séduit.
Ils bossent bien, ça, il y a pas de souci, ils bossent bien.
Parce que t'as des clubs qui ont de l'oseille, le Real cette année, il y a de l'oseille.
Bah, oui,
on peut pas dire qu'ils aient construit une équipe idéale. Donc c'est, ils n'ont pas eu le nez pour ça.
Ok, donc on sait que dans des
non, et on sait que dans
parlais,
beaucoup de clubs,
je parlais de la longueur, je parlais de
non,
la
bien
longueur,
sûr, bien sûr,
la distance.
Avec l'arrivée
années,
du quoi, Paris FC, avec le Marseille qui a un peu plus d'ambition, peut-être que demain, sur le niveau au national, je dis pas qu'ils vont les détrôner, je dis que peut-être ça va les titiller. Maintenant, une équipe comme ça, tu peux avoir tous les beaux moyens que tu veux. tant que ça roule comme ça, regarde le Barça, il marche sur les autres en Ligue 1.
Hein. Ok, la suprématie du PSG est-elle fascinante ou déprimante? On vous attend évidemment au 32-16, amoureux du football. Si vous avez regardé la finale de la Coupe de France hier, remportée donc par le PSG 3-0 face à Reims.
J'ai regardé 19 minutes, moi.
C'est déjà pas mal.
Bien déjà.
C'est déjà plus que ce que tu n'as regardé cette saison en Ligue 1. Et puis on va se projeter évidemment sur la Ligue des Champions. Cette finale, la saison du PSG se joue-t-elle samedi prochain? Je sais que vous avez un avis tranché sur la question. Allez, à tout de suite sur RMC dès 9h26.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Jeannot Rességuier. On continue de parler du Paris Saint-Germain. La suprématie du PSG est-elle fascinante ou déprimante? On vous attend évidemment au 32-16 dans 10 minutes. C'est un dimanche exceptionnel qu'on vous propose sur RMC. Dans 10 minutes, on ouvre le dossier de cette équipe de Monaco en finale de l'Euroleague face à Fenerbahçe. C'est à 19h ce soir. Est-ce que la France peut se passionner pour une équipe monégasque? On se posera la question et on retrouvera nos envoyés spéciaux à Abu Dhabi. Mais donc, restons un instant sur cette victoire du Paris Saint-Germain face à Reims. Évidemment, toutes les têtes, tout le monde est projeté vers cette finale de la Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter Lucas Hernandez hier en conférence de presse sur évidemment l'objectif de cette finale.
Maintenant, le plus important reste à faire. Ce serait une année incroyable. Ça serait une année historique pour nous les joueurs, pour le club, pour la ville, pour le pays aussi. Et je pense qu'on mérite de finir ça en beauté et on va tout faire pour.
Le plus important, pardonnez-moi, reste à faire. Est-ce que la saison du PSG se joue obligatoirement samedi prochain, Jérôme Pinault?
Non, pour moi non. Pour moi non, parce que la saison, elle est déjà pleinement réussie. Alors, elle se joue évidemment. Tu rentres dans l'histoire, tu marques. Ça y est, t'as fait la finale il y a 2 ans maintenant. Là, tu vas en finale et tu gagnes. Et ça change la chose. Mais de la façon dont l'équipe s'est construite, dont le club a avancé sa domination française, qui était... C'est pas gagné, c'est du sport avant tout. Hein. C'est pas donné au début de saison que les gars vont pas être à l'envers. Et puis cette montée en puissance qui suit le discours de son coach, parce que c'est ça en fait, il l'annonce et il leur dit qu'ils vont y arriver tous ensemble. Mais cet esprit de groupe, elle est pleinement réussie. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Alors évidemment, le gâteau il est beau. S'il y a pas la cerise, c'est pas le même goût. Et la finale du week-end prochain, c'est quelque chose de grand. Mais de l'esprit club, ce qui a été construit, je pense qu'on est dans l'ère nouvelle, il y a quelque chose qui est parti. J'en prends un exemple et je fais un coup de pub. Le 7 et 8 juin prochain, il y a un tournoi international dans la commune où je vis, à Avignon-de-Bretagne. Eh bien, le Paris Saint-Germain se déplace. Ils viennent avec une catégorie de jeunes, mais ils viennent à ce tournoi-là pour se confronter à plus grands. C'est les 17, il y aura la Roma, il y aura un paquet de grands clubs. Il y a quelque chose qui se passe. On a pris conscience peut-être qu'on doit rentrer dans la sphère France, qu'on doit être la loco de ce championnat et de ce football français sans décrocher les wagons et être ailleurs. Et ça, bah, comme Jeannot le disait, Campos, Luis Enrique, cet esprit club. Et quelque chose est en train de naître cette année, quel que soit le résultat.
Quel que soit le résultat, je vois la moue de Sarah. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec toi, Sarah. Voilà, il y a David aussi dans quelques instants.
Moi, je pense que ça se joue samedi prochain quand même malgré tout.
La pleine réussite, mais tu jettes pas tout à la poubelle si tu perds.
Mais
samedi,
non, j'ai pas dit qu'on jetait tout à la poubelle. Mais je pense que ça se joue quand même samedi prochain. On a déjà eu, enfin, je veux dire, le PSG qui gagne des titres, que ça soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, quand elle existait encore, et le titre de champion de France. Enfin, ça fait une dizaine d'années que le PSG est au-dessus. Aujourd'hui, le PSG n'a jamais été aussi près de remporter cette première Ligue des Champions. Mais en 2019-2020, le temps du Covid, quand il y a eu cette finale un peu spéciale de Ligue des Champions, on posait les mêmes questions à l'époque et on avait besoin de ce titre. En tout cas, le PSG avait besoin de ce titre de Ligue des Champions pour que, encore une fois, ce soit un grand d'Europe. Ce qui est différent de 2019 ou 2020, finalement, c'est la place qu'on a laissée à Luis Enrique.
Et la méthode, et oui, Sarah, parce que les stars, tu montres à tout le monde que le reste, tu t'en fous, c'est cette coupe-là que tu veux. Là, c'est on construit quelque chose pour aller chercher un jour.
Ouais, mais
au début de saison, l'objectif était absolument pas d'aller gagner.
Le PSG voulait garder Mbappé. Mais Mbappé, ils ont tout fait pour.
Ils ont bien fait de pas le garder, tu vois.
Bah, en tout cas, ils ont bien fait de pas se mettre d'accord, en l'occurrence. Mais la différence, et je sais pas comment ça s'est fait, ou est-ce que c'est la force de Luis Enrique d'avoir réussi à imposer jusqu'au bout son process, son management, sa manière de faire, parce que tous les autres entraîneurs, aussi bons soient-ils, finalement, on avait toujours l'impression que il n'y avait pas d'institution PSG, c'était toujours QSI, c'était toujours le Qatar, qui finissait toujours par prendre les décisions au détriment du coach. Donc je ne sais pas comment Luis Enrique a réussi finalement à faire dire chacun son poste, chacun doit rester à sa place. Moi, je suis l'entraîneur et je vais construire cette équipe comme ça. Et preuve à être constatée qu'en plus, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a la preuve.
Ok, mais pour toi, ça se joue quand même samedi prochain.
Quoi qu'il arrive,
Douillet.
Ça se joue samedi prochain.
Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Ça, il aura fallu quand même 13-14 ans pour comprendre c'est ça. C'est long. Et si,
Et
ça leur a coûté cher, tu vois. Je sais pas, si on pose la question au propriétaire du club, pourquoi avez-vous investi dans ce club? Est-ce que tu penses qu'ils vont nous répondre, c'est pour gagner 13 titres de champion de France? Je pense pas qu'ils répondent ça. C'est pour gagner une Coupe de France? Non plus. C'est pour gagner le trophée de champion? Non plus. C'est évidemment, à la seconde où ils ont décidé d'acheter le PSG, c'est évidemment pour gagner la Champions League. Et ça fait 14 ans que ça dure, tu vois. Donc, c'est pas un tournant de la saison, c'est un tournant de l'histoire du PSG. C'est pas, est-ce que la saison va être formidable? Est-ce que ça va être... Non, non. C'est une page d'histoire qui risque de se tourner la semaine prochaine. Et c'est génial, hein. Mais en réalité, c'est ça. C'est pas la saison qui va être extraordinaire. C'est ce titre-là depuis plus de quasiment 15 ans qu'ils sont à la course à ce titre. Ils l'ont jamais obtenu.
Tu parles du côté sportif.
C'est un grand club européen.
On n'oublie pas qu'ils sont venus pour autre chose que le sport à la base.
C'est un grand club européen, mais ils ont jamais décroché la timbale. Voilà, c'est tout. Donc c'est un tournant historique.
Il y a Sidney qui nous appelle, et Christophe et Jeannot, vous allez pouvoir réagir. Sidney nous appelle au 32-16. Bonjour Sidney.
Bonjour.
Tu n'es pas Sidney Govou, parce que là, il est 9h36, c'est beaucoup trop tôt, non?
Non, pas Sidney Govou.
Très bien.
Sidney, supporter parisien.
Parfait, Sidney. Alors, dis-nous ce que tu penses de notre débat. Tu peux répondre à cette question. Est-ce que la suprématie du PSG est fascinante ou déprimante? Et puis tu peux évidemment parler de cette grande finale qui arrive dans 6 jours.
Alors moi je pense que c'est plutôt fascinant, parce qu'aujourd'hui faut savoir que le PSG, depuis que les Qataris l'ont moi je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis bien avant les Qataris, hein. J'ai 40 ans, je me souviens encore de la finale de la Coupe d'Europe il y a quelques années,
96
qui avait été livré, voilà, 96
rapide de Vienne.
Et moi je pense qu'aujourd'hui c'est si Paris en arrive à là, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui les dirigeants parisiens compris que un club ne se gère pas avec la pression populaire. Et pendant plusieurs années, depuis que les Qataris, le Qatar est arrivé à la tête du PSG, souvent, chaque deux ans, il y avait la pression de se dire on doit gagner la Ligue des Champions. Et ça a été, pour moi, une grosse erreur. Et je pense qu'on aurait pu arriver à quelque chose si on avait pu à une époque. Parce que les meilleurs PSG en termes de jeu, c'était quoi? C'était le PSG de Laurent Blanc. Et aujourd'hui, le PSG de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, on l'a laissé travailler. Et Laurent Blanc, quand il était là, le PSG, on peut dire qu'il y avait peut-être une empilade de stars, mais il y avait du beau jeu. Bon, après, on se rate sur la finale, la demi-finale.
On ne va pas refaire toutes les années du Paris Saint-Germain, mon cher Sidney. Juste toi, ça te fascine, en tout cas, cette domination.
Oui, elle est fascinante. Comme dans tous les grands championnats, il y a toujours une équipe qui domine. En Espagne, on a le Barça et le Real. En Angleterre, pendant longtemps, on a la domination de City. Donc, c'est fascinant et c'est plaisant. C'est maintenant aux équipes de travailler pour comprendre que la formation française, elle est importante pour que le championnat évolue.
T'as compris que c'est séduisant pour les supporters du PSG, déprimant pour les autres, en fait. C'est un peu ça. Hein.
Et notamment les supporters niçois.
Bon, non, j'ai qualifié par la Ligue des Champions.
Bravo. Ah, pas encore. Attention, pas encore. Attention.
Tu as deux fois de match, hein.
À jouer. Oui. Jeannot, comment on a envie de rentrer dans la coulisse de la voix du foot sur RMC? Comment va se passer ta semaine? On sait que c'est un grand moment, ça va être un grand moment sur RMC, dans la carrière d'un commentateur, commenter une équipe française.
Ah ouais, moi,
en finale de la Ligue des Champions, c'est incroyable.
J'étais pas à Munich en 93, j'étais sur le vieux port.
C'était bien en 76.
Oui, bien sûr, avec le transistor dans les oreilles à 13.
13 piges en train de découvrir ce qu'était la radio. Non, non, mais moi, c'est clair que c'est, j'ai beaucoup d'impatience à vivre cet événement-là. En 2020, j'étais à Lisbonne, dans cette fameuse finale à 8, là, où le PSG se fait battre par le Bayern. Mais tu sentais que ça avait été compliqué sur les matchs d'avant, avec l'Atalanta notamment, et c'était pas la même façon d'aborder
c'est
le match.
C'est Covid,
et puis c'est un stade vide. Voilà.
Et donc, on va parler de Monaco tout à l'heure. La finale de Monaco.
2004, ouais.
Ouais,
moi j'avais suivi toute la campagne.
Est-ce que tu sentais la même effervescence autour de cette finale-là par rapport à celle de samedi prochain ?
Non. Il y a plus d'effervescence aujourd'hui parce que c'est Monaco et c'est intéressant aussi. Vous en parlerez tout à l'heure par rapport au basket et pour avoir travaillé là-bas au pied du rocher, c'est une façon de vivre différemment l'actualité. Il y a des moments quand tu fais un petit retour en arrière, tu te dis waouh. Tu parlais de la France, de l'Europe, du monde entier depuis Monaco. Enfin, c'est qu'à l'époque de Radio Monte Carlo, c'était un peu ça quoi. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que et je sais pas. Tant pis, je vais pas me faire des potes à Marseille, mais que les gens se rendent compte que justement il y a plus de stars. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé, etc. Il y a une équipe jeune, ne l'oublions pas, hein, c'est une des plus jeunes équipes de Ligue des Champions cette saison, façonnée par Luis Enrique. Et peut-être que les gens sont en train de se rendre compte, même du côté de Marseille, qu'il est en train de faire quelque chose de fort au niveau du collectif.
Qui n'a jamais été fait.
Il y a une implication totale avec des joueurs qui adhèrent, qui comprennent, qui ont envie de gagner des choses et qui ont compris que Luis Enrique pouvait les amener sur ce terrain-là. Et peut-être que ça donne le sentiment que, ah ouais, finalement, ils vont peut-être y arriver, ouais. Et avec un petit truc au fond de la gorge, pour certains. Ce que je peux comprendre, hein, c'est
notre culture franco-française. Le terme que tu utilises, façonner, c'est exactement ça.
Mais c'est ça.
Que tu sois supporter du PSG, que tu sois spécialiste technique du football, t'es obligé de reconnaître qu'il y a des noms de joueurs, mais tu les mets pas à un poste précis. C'est-à-dire que tu les vois évoluer. Et quand tu aimes le sport et quand tu cherches à comprendre le sport, ben, il te propose quelque chose, en fait. On te propose quelque chose à chaque match. Et ça, c'est intéressant. Et que ça soit le PSG, que ce soit Marseille ou Lyon, je pense que s'il y avait eu cette construction, je pense que de toute manière, une grande partie de la France aurait été vers n'importe quel club qui aurait été en finale de Ligue des Champions aujourd'hui avec cette manière de construire une équipe.
J'ai une question subsidiaire pour vous tous, qui avait connu aussi Marseille en 93 en finale de Ligue des Champions. Est-ce que cette équipe du PSG aujourd'hui est plus séduisante que celle de Marseille en 93?
La question. Ouais.
Moi, j'étais trop jeune, évidemment. 93, l'OM, Papin par l'année d'avant. Mais moi, j'étais fan absolu du président, l'entraîneur, des joueurs.
C'était une équipe de stars.
Mais de l'époque, Chris, mais on n'avait pas à l'époque le regard sur le football international comme on peut l'avoir aujourd'hui.
Et puis, il n'y avait pas la starification que tu as aujourd'hui.
En face, tu as aussi beaucoup de stars à l'époque.
David va répondre.
Plus qu'à Marseille.
Non, mais je pense que et vous l'avez dit entre les lignes. Je pense que à l'époque, à Marseille, oui, il y avait des grandes stars, mais c'était des stars qui étaient considérées de la même manière, au même niveau. Et ce que j'ai ressenti dans les années précédentes avec Mbappé et les autres, toutes les grandes stars qui étaient là, c'est que les autres joueurs devaient d'abord jouer pour ces stars-là et puis ensuite jouer pour le titre. Et ça marche pas. Ça marche pas. Là aujourd'hui, on a des jeunes qui se considèrent être au même niveau et qui sont managés comme étant des gens sur la même ligne, sur le même terrain. Et il y a pas, il faut pas jouer que pour lui amener le ballon que pour lui. Et c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire que les types ont envie de jouer pour le club, pour eux et pour les autres, et pas que pour une personne. C'est toute la différence. C'était la magie de Marseille, et je crois que c'était la magie du PSG aujourd'hui.
Je suis d'accord avec ça. Mais après, juste pour finir, sur la question précise, du repos, surtout protéger la voix, parce que j'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu en 2018, à la 74e, il y a tout qui est parti pendant 2-3 minutes. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, préparer cette finale avec beaucoup d'envie et d'impatience.
Tu pars quand à Munich ?
Vendredi matin, on part, toute l'équipe d'RMC Sport, on part la veille du match avec la conférence de presse et puis ensuite vivre une journée, je l'espère en tout cas, extraordinaire du matin jusqu'au soir, très très tard.
Quoi. Et à Munich, t'es au bon endroit.
Évidemment, sur RMC, ce sera un week-end exceptionnel. On vous donnera tout notre dispositif, mais croyez-moi, il va être extrêmement solide avec notamment Jeannot Rességuier à Munich. Merci beaucoup Jeannot d'avoir été avec nous. Merci Sydney d'avoir composé le 32-16. On a encore beaucoup de choses à évoquer avec vous. Le PSG, ça s'est fait. L'Euroleague Ligue avec Monaco. Monaco qui peut, plus de 30 ans après, eh bien, devenir champion d'Europe. Après Limoges en 1993, on sera à Abu Dhabi dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
J'avance un peu, 9h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux à partir de 10h. Évidemment, c'est le grand début de Roland Garros. Aujourd'hui, je vous demanderai, c'est le duel, le nouveau duel, Sinner Alcaraz vous fait rêver. Ce sera le bras de fer des GG. Et évidemment, on a encore beaucoup de sujets à évoquer avec vous, chers auditeurs. Ce matin, vous composez le 32-16 pour participer à cette émission. Allez, tout de suite, 32 ans après, eh bien, la France est de retour.
C'est excellent. Dimanche a gagné. C'est terminé. Dimanche champion d'Europe. Dimanche champion d'Europe, Georges. Le premier club français à gagner la Coupe d'Europe des clubs champions dans toute l'histoire du sport, tout sport confondu.
Les Monégasques vont-ils devenir à jamais les deuxièmes après Limoges? Vous l'avez entendu en 1993, le club de la Principauté à l'occasion ce soir à 19h d'entrer dans l'histoire du sport français. Depuis 1993 donc, aucun club français n'avait atteint la finale de l'Euroleague. Les Mike James, les Elio Kobo, les Mathieu Strazel vont peut-être remplacer les Richard Dacoury, Frédéric Forté et autres. Jim Bilba. On va retrouver à Abu Dhabi notre envoyé spécial Félix Gabory. Bonjour Félix.
Salut tout le monde.
Alors les Monégasques, c'est à 19h hein, le match ce soir face à Fenerbahçe. Est-ce que les Monégasques ressentent là cette pression de l'histoire?
Alors les fans de basket, ils tiennent plus en place, mais les joueurs de Monaco, eux, ils essaient de garder la tête froide. Après la victoire en demi contre l'Olympiaco, c'était plutôt calme dans le vestiaire. Surtout, ne pas s'enflammer pour le meneur de la Roca Team, Mathieu Strazel.
Ça s'est fait naturellement. C'était même pas une consigne du staff de garder notre calme. C'est juste que on est venu en mission. La mission n'est pas finie. Donc 40 minutes de plus à jouer et après on pourra célébrer.
Et c'est pourtant dur de ne pas penser au fait que Monaco peut marquer l'histoire 32 ans après l'unique sacre d'un représentant français dans la compétition. Tu l'as dit, c'était Limoges en 1993. Quand on sait que Monaco était encore en 3e division française il y a 10 ans, ça met un peu la pression. Mais le pivot monégasque Mame Jaïté ne veut pas y penser pour attaquer le match de la meilleure manière.
Une finale de EuroLeague, on ne sait jamais si on aura la chance dans notre carrière de pouvoir revivre ce genre de match-là. Donc, le plus important pour nous, c'est d'aborder ce match-là avec un état d'esprit où on va être encore plus agressif, avec encore plus d'énergie et de solidarité que ce qu'on a pu faire sur la demi.
Monaco a une marche du titre en EuroLeague pour sa 4e participation seulement. C'est ce soir à Abu Dhabi à partir de 19h et c'est évidemment à suivre sur RMC.
Eh oui, dispositif exceptionnel à partir de 19h. Tu as bien raison de le rappeler, Félix. Tu restes avec nous pour ce débat. C'est vrai que la France s'était passionnée, mais GG pour Limoges. Souvenez-vous, moi, c'est l'un de mes premiers souvenirs de sport en 1993. Est-ce que la France est prête à se passionner pour cette équipe de Monaco et plus largement pour une équipe monégasque? C'est toujours assez ambivalent les sentiments.
Ça me semble compliqué avec Monaco et ses différentes équipes de sport co. Il y a toujours eu une sorte d'indifférence admirative, c'est-à-dire que on les trouve belles, ces équipes. Elles sont chatoyantes, elles présentent un jeu incroyable. Et puis, c'est beau d'aller à Monaco. Le stade Louis II, il est ouvert sur la mer. Il y a les yachts au pied du stade. Mais en même temps, on est un peu indifférent. On les aime, ces équipes, mais sans passion. À Limoges, des propres supporters des clubs monégasques, qui sont des gens bien élevés, qui font pas de vagues, qui sont pas des ultras, qui vont pas manifester dans la rue et jeter des bombes et des fumigènes.
On a aussi à Monaco,
des flics monégasques, parce que là tu finis en prison.
Quand il y a des matchs de foot à risque à Monaco, ils arrêtent.
La police municipale.
Non, ils arrêtent.
À la frontière.
Non, on arrête de servir de l'alcool après une certaine heure. Voilà. D'ailleurs, pour éviter tous les débordements. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, ça reste. Monaco reste un pays feutré avec des équipes de sport co ou même de sportifs. C'est feutré, c'est comme
c'est
ça.
C'est pour ça que je vous demande si ça peut vous passionner.
Alors, rappelez-vous, il y a quand même un exemple, et on en parlait tout à l'heure 2004. Avec Jeannot, c'est cette Ligue des Champions de 2004, équipe coachée par Deschamps à l'époque. Deschamps, c'était. le capitaine des champions du monde. C'est ça, c'était 6 ans plus tôt. Et on avait beaucoup d'admiration et beaucoup de passion pour ce garçon-là. Il a réussi à construire une équipe incroyable avec les Morientes, les Juli, les Evra et autres Roten. Et cette équipe-là, elle a réalisé un parcours incroyable en Ligue des Champions. Elle a sorti Chelsea, elle a sorti le Real, elle a sorti
le Real des Galactiques, hein,
avec Zizou. Elle est allée en finale de Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Il y avait pas tout à fait le même engouement à Monaco et autour de Monaco cette année-là qu'il y a pour le PSG ou qu'il y avait pour Marseille ou pour Saint-Etienne en 76. Donc c'est un peu toujours la même chose. On les aime bien, on est admiratif. Ce sont nos cousins, nos petits cousins. On en est fiers, mais c'est pas nos frères.
Ok, Sarah, tu veux rebondir?
Je veux rebondir. Je vais surtout aller sur la même lignée que Christophe. En fait, c'est pas une question de savoir si on peut s'enthousiasmer pour une équipe monégasque. C'est plutôt pour la discipline. Pardon, le basket français, je m'en excuse d'avance, ça reste quand même un...
Alors je suis pas d'accord avec toi, parce que regarde le buzz qu'a fait les prestations du Paris Basket, oui, il y a quelques semaines.
Oui, exactement. Oui.
Il y a eu un buzz médiatique, oui, parce que c'est une équipe de jeunes de banlieue, tout ça. Monaco, c'est
oui, mais il y a aussi le basket français, le basket européen. Pardon, c'est une niche. Et pour preuve, ce soir, ce match-là n'est pas classé comme étant un événement
majeur.
Un événement majeur, et donc il n'est même pas diffusé. Tant mieux pour nous, hein, vous me direz, voilà, parce qu'on va le faire en direct. Mais c'est même pas diffusé, oui, sur une chaîne gratuite ou de la TNT. Donc forcément, et je pense que c'est pas Monaco, c'est plus la discipline, c'est-à-dire le basket. La même chose. Moi, j'ai ces souvenirs de 2004, de la Ligue des Champions de Monaco. Alors il y avait pas, on n'avait pas autant d'enthousiasme ou de médias, de réseaux sociaux. Mais j'étais super fière de Monaco en 2004, comme je vais l'être pour le PSG.
David Douillet.
Moi, je pense que le côté monégasque, feutré, etc., etc.,
existe,
j'y crois pas.
Oui, mais
ouais, ça existe. Mais Sarah, tu as touché, je pense, le truc le plus important. La Betclic Elite, la Ligue 1 de basket, elle est diffusée sur quelle chaîne aujourd'hui?
Sur leur plateforme, la Sweet.
Sur DAZN. Voilà. C'est-à-dire que personne ne regarde. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un engouement national quand personne ne sait, quand personne n'est là, quand la masse populaire n'est pas là. Il y a que des spécialistes qui vont payer un abonnement pour aller voir du basket. Il y a que le passionné pur et dur de basket, mais pas le peuple. Pourquoi il y avait, je trouve, un engouement pour le foot? Pourquoi il y a un engouement pour l'ami Leclerc en F1? Mais parce que c'est diffusé. Parce que on en parle.
Enfin, c'est diffusé. Il faut payer quand même Canal Plus 30 balles. C'est plus cher que Squeak. Qui est à 6 ou 7 euros.
Mais pour 30 balles, tu vois d'autres choses aussi.
DAZN et Canal Plus. Bon, voilà, c'est deux choses différentes. Donc, en fait, moi, je pense que ça ne tient qu'à ça. Si la Betclic était diffusée sur des chaînes claires ou sur des chaînes grand public et populaires, je pense qu'il y aurait cet effet-là. En tout cas, il pourrait naître. Il ne pourra jamais naître que s'il y a des diffusions confidentielles de l'histoire de l'équipe, du cheminement de l'équipe. C'est pas possible. Et ça sera. Et c'est pour moi la seule raison qui vaille pour que pas grand monde se passionne, malheureusement, pour
cette grande finale européenne. Et puis, pardon, ils sont tombés sur un sale week-end, hein, en termes de confrontation.
Ouais, en plus,
quand t'as une équipe de rugby qui est champion d'Europe...
On en parlera à 11h. Ouais.
Quand t'as le Grand Prix de Formule 1, quand t'as Roland-Garros qui démarre, quand t'as une finale de Coupe de France, la liste s'accumule, forcément t'es un beurre.
C'est terrible quand même pour le basket d'être diffusé sur une chaîne...
Digitale,
alors que la finale de la Coupe d'Europe de rugby est diffusée en plein après-midi.
En clair. La force de l'émetteur.
C'est une finale de championnat d'Europe où l'inscription est quasiment payante pour y être, parce que c'est pas une question sportive, qui est dans un sport qui est diffusé sur une plateforme où peu de gens vont, qui est très cher, et qui va jouer à Abu Dhabi. Déjà, quant à ces éléments-là...
Mais en revanche, nos envoyés spéciaux sont très bien accueillis.
Le côté populaire, c'est Monaco. Mais par contre...
On n'est pas trop mal. Il fait un petit peu chaud à Abu Dhabi, mais on n'est pas trop mal.
On est désolé, Félix, vraiment.
On passe beaucoup de temps à l'intérieur, pour le coup. On est mieux avec la clim, on ne vous cache pas ici. Et juste, si je peux rebondir quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans un cadre plutôt feutré à Abu Dhabi et qu'on est loin de l'Europe et de la ferveur des salles.
Ils ont tout fait pour pas que ce soit suivi, quand même.
Non, mais par contre, faut juste pour préciser qu'ici, même s'il y a pas, on sent pas trop la ferveur quand on est en dehors des matchs, mais par contre dans la salle, quand vraiment il y a les matchs, quand il y a eu les demi-finales vendredi soir, la salle vraiment, elle est en feu, les supporters ils répondent présents.
Non, mais
présents,
c'est toujours pareil. Parce que mais bien sûr, mais t'as raison.
Il y a trois équipes
qui sont en feu. Tu sais, c'est comme les.
Et c'est trois
politiques.
Équipes avec des supporters, c'est quand même voilà. L'Olympiakos, le Pana, le Fenerbahçe, des Turcs, des Grecs oui, qui sont chauds bouillants et ils ont répondu présent.
Mais vous savez, moi, je suis quand même plus excité par cette finale de ce soir que par celle d'hier soir. Hein. Monaco-Fenerbahçe en finale de l'Euroleague, ça m'excite plus que PSG-Reims en finale de la Coupe de France.
Il y a une incertitude au moins.
Ouais, exactement.
C'est ce que tu veux nous dire. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Félix Gabory. On te retrouve évidemment à partir de 19h. Antenne, on a changé notre programmation pour suivre à fond avec vous cette finale de l'Euroleague. Coup d'envoi donc 19h, Monaco-Fenerbahçe, RMC est là pour vous faire vivre cette rencontre historique pour le sport français. Il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup Félix. Il est 9h57, on se retrouve dans quelques instants. Allez, Roland-Garros, Mordon dans la terre battue, tout de suite le duel, le nouveau duel Alcaraz-Sinner. Est-ce que ça vous fait rêver? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.